Siéko d'ailleurs est en vacances. Pendant ce temps, nous vous proposons une série de rediffusions. Nous avons choisi de vous faire entendre certaines des émissions les plus marquantes de la saison qui s'est terminée au mois de juin. Restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Il y a un mois, dans une précédente émission, nous évoquions le coût du terrorisme. Aujourd'hui, nous parlons du financement des groupes terroristes et des terroristes, des ressources de ces groupes et de ces individus, et des moyens utilisés pour enrayer ces flux financiers. Qu'elles s'appellent Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram ou Organisation de l'État islamique, qu'elles opèrent comme ces jours-ci à Tunis ou à Bamako, en Syrie, en Libye ou même en France, toutes ces organisations ont des besoins économiques et nous chercherons à les évaluer. Comment subviennent-elles à leurs besoins? Comment financent-elles leurs attaques? Est-ce que ces groupes innovent ou est-ce qu'ils s'inspirent de ce que d'autres groupes ont fait avant eux? Par exemple, les tigres de l'Elam Tamoul? Telles sont les questions que je vais poser aux quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour Vincent Schmoll.
Bonjour.
Vous êtes analyste principal au GAFI, le groupe d'action financière, un organisme intergouvernemental créé en 1989 pour lutter contre le blanchiment de capitaux et vous travaillez sur le financement du terrorisme depuis 2001. Vincent Schmoll, comme il y a une attaque comme celle qui vient d'avoir lieu au musée du Bardo à Tunis et qui a fait environ 20 morts, est-ce que le chercheur que vous êtes se demande comment cette opération a pu être financée et combien elle a coûté? Est-ce que c'est votre première pensée?
C'est bien sûr, c'est la première pensée, parce que le système de GAFI est basé sur la philosophie que pour lutter contre le terrorisme, un aspect très important, c'est de pouvoir lutter contre son financement, qu'on puisse éventuellement trouver des liens aux personnes qui sont impliquées dans ces actions et même, dans certains cas, pouvoir les détecter avant leur action.
Avec nous également Jean-Charles Brizard, bonjour.
Bonjour.
Jean-Charles Brizard, vous êtes l'un des fondateurs du Centre d'analyse du terrorisme. Dans les années 1990, vous avez collaboré au parquet antiterroriste à Paris et vous n'avez cessé depuis de suivre ces dossiers. Dernière manifestation de cet intérêt, enfin en tout cas dernière manifestation publique, un rapport sur les finances de l'État islamique. Ces finances sont-elles très différentes de celles des groupes que vous avez connus il y a 20 ans à vos débuts dans la spécialisation sur ce dossier?
Oui, tout à fait, parce qu'on est face à une organisation terroriste tout à fait inédite par plusieurs aspects. D'abord parce qu'elle contrôle un territoire, elle a une assise territoriale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent des principales organisations terroristes islamistes, notamment Al-Qaïda, singulièrement Al-Qaïda. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une forte capacité de mobilisation de cette organisation. Près de 20 000 djihadistes étrangers ont rejoint les rangs des organisations terroristes dans la zone syro-irakienne depuis 2012. Et puis, troisième chose, ça concerne notre sujet aujourd'hui, c'est sa richesse.
Hein,
une richesse
on en parlera
qu'on
tout
a calculée, ah, avec des modes de financement tout à fait différents de ceux pratiqués par Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était essentiellement du financement externe, qui impliquait des flux financiers. Là, on est face à une organisation qui s'autofinance, parce qu'elle, ses principales sources de financement sont en réalité sous son contrôle sur le territoire qu'elle maîtrise.
On y revient dans quelques minutes, mais poursuivons ce tour de table avec Guy Gouette. Bonjour Guy Gouette.
Bonjour.
Vous êtes Camerounais, fondateur du cabinet Knowdis, qui fait de l'intelligence économique. Suivre les activités d'un groupe comme Boko Haram que vous suivez, c'est nécessaire pour informer correctement vos clients?
C'est absolument inévitable, parce que s'il est bien un risque géopolitique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est Boko Haram. Ça, c'est d'un point de vue purement géopolitique. Maintenant,
d'un point de vue économique.
D'un point de vue économique, lorsqu'on procède aux analyses concurrentielles, on se rend très vite compte que depuis le mariage de Boko Haram avec le crime organisé, eh bien, les entreprises qui sont présentes sur ces territoires-là doivent faire face à de nouvelles formes de menaces.
Je termine ce rapide tour de table avec vous, Pierre Conessa, bonjour.
Bonjour.
Pierre Conessa, vous êtes un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, l'auteur aux éditions Robert Laffont d'un livre intitulé « La fabrique de l'ennemi ». Vous étiez déjà dans ce studio le 21 février dernier pour l'écho d'ici, écho d'ailleurs, que nous avions consacré aux fondements économiques et aux coûts du terrorisme. Vous aviez alors fait remarquer que le terrorisme actuel était évidemment un terrorisme salafiste. Est-ce que ce salafisme suppose des modes de financement particuliers ?
Bah, il y a au moins un mode de financement, si vous voulez, qui est un détournement de la loi islamique. C'est-à-dire que la zakat, qui est l'aumône obligatoire, si vous voulez, quand elle se fait à la sortie de la mosquée, en expliquant que c'est pour aider des victimes en Syrie ou en Irak, les gens donnent. Ensuite, savoir ce que ça devient, c'est une autre question. Et ce n'est pas propre au salafisme, mais simplement, on sent bien qu'il y a, vis-à-vis de ces crises qui sont en train de se dérouler dans la région, une espèce de sensibilité de l'ensemble de la communauté musulmane qui permet en tout cas une mobilisation financière un peu plus importante. Mais il n'y a pas sinon, excepté ce que la posture de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, si vous voulez, de raison que le salafisme soit plus financeur que d'autres. Ils ont simplement plus d'argent.
Dans cette émission, nous entendrons également Samir Abdoulak, le secrétaire général d'ICOMOS France. ICOMOS pour Conseil International des Monuments et des Sites. Nous irons à Istanbul avec un reportage de Jérôme Bastion et à Colombo au Sri Lanka avec Sébastien Farsi pour un reportage sur les tigres de l'Elam Tamoul. On lit partout que l'organisation de l'État islamique est l'organisation terroriste la plus puissante qui ait jamais existé. Est-ce que c'est aussi la plus riche ou parce que c'est la plus riche, Jean-Charles Brizard?
Parce qu'elle maîtrise un territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a à sa disposition des ressources naturelles, c'est-à-dire ce que contient le sous-sol de ce territoire, notamment le pétrole, le gaz naturel, les mines de phosphate, et puis des ressources agricoles des ressources bancaires également, industrielles. Tout ça, nous l'avons estimé dans notre dernier rapport, à la fin de l'année dernière, sur le financement de l'ISIS, à près de 2000 milliards de dollars.
2000 milliards de dollars.
2000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars. C'est une fortune colossale, en effet. Puis après, il y a ce que l'État islamique peut en faire, c'est-à-dire qu'elle doit exploiter ses ressources, elle doit pouvoir vendre ses ressources, les vendre à des intermédiaires, etc. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, cette organisation est aujourd'hui l'objet de frappes aériennes, en particulier, qui limitent sa capacité non seulement à faire circuler des ressources, mais également à les vendre.
Vincent Schmoll, 2000 milliards de dollars, c'est un chiffre que vous confirmez ?
Oui, c'est ce qu'on avait trouvé aussi dans les recherches qu'on vient de publier avec un rapport du CAFI sur l'ISIL. C'est ce qu'on a constaté avec nos recherches aussi.
Pierre Connaissat, c'est le produit intérieur brut d'un État normal, le budget de la France ?
C'est pas loin, effectivement. Moi, je voudrais faire une remarque. Quand l'URSS a disparu, toute la stratégie économique des groupes insurrectionnels, hein, qu'ils soient les FARC colombiens ou qu'ils soient les talibans, si vous voulez, a changé. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y avait plus de subventions de l'Est ou de l'Ouest, toute la stratégie économique des groupes insurrectionnels était justement de maîtriser le territoire. Ce qu'on avait connu avec l'UNITA, si vous voulez, où la guerre se déroulait autour
En Angola.
En Angola, où la guerre se déroulait autour des mines de diamants, ou au Cambodge, si vous voulez, où la maîtrise de la forêt tropicale, etc. Et là, effectivement, avec le cas de Daesh, on a le cas paroxystique où, effectivement, la maîtrise de ce territoire pétrolier fournit une ressource dont on ne connaissait pas de limite jusque-là. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de stratégie militaire, si vous voulez, l'objectif n'est plus la capitale, surtout si on sait qu'on ne peut pas la prendre. L'objectif est la maîtrise des zones riches. Et ça veut dire qu'en stratégie militaire, c'est totalement différent.
Alors, la principale ressource de l'État islamique, c'est le pétrole. Fin décembre dernier, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, annonçait que la Turquie avait saisi au cours de l'année 2014 80 millions de litres de pétrole venant de puits contrôlés par l'État islamique, essentiellement en Syrie. Le ministre explique également que les autorités ont découvert et détruit plusieurs oléoducs installés dans la région pétrolière. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Jérôme Bastion à Istanbul.
Nul doute que c'est la frontière turco-syrienne, avec ses plus de 900 kilomètres, qui est la plus poreuse au trafic alimentant l'État islamique, notamment celui du pétrole. Le journaliste Fehim Tashtekin est l'un de ceux qui connaissent le mieux cette région.
Les canaux d'exportation clandestine sont multiples. Au seul lieu dit d'Ajipacha, j'ai vu près de 500 mini-oléoducs, des conduits de la taille d'un tuyau d'arrosage, qui passaient au fond de la rivière assis, puis sous la terre, dans les champs, et arrivaient dans les jardins des maisons côté turc. Là, on remplissait des bidons qui étaient ensuite vendus. La même scène existait en de nombreux endroits. Deuxième technique, ce sont des gens qui passaient la frontière avec des bidons à la main, en si grand nombre qu'il était difficile de les en empêcher. Troisièmement, le transport par camion. Des semi-remorques équipés de réservoirs supplémentaires énormes d'un millier de litres chaque fois. Ils passaient la frontière, déposaient leurs marchandises dans le No Man's Land, et là, ils remplissaient leurs réservoirs pour revenir avec du pétrole qu'ils revendaient ou consommaient eux-mêmes.
Pour Sinan Ulgen, expert en géopolitique, le phénomène est loin d'être nouveau.
Avant l'État islamique, on avait déjà ce type de contrebande, essentiellement à cause de différences de prix pour ce qui concerne le pétrole. Il y a des networks qui ont été tissés à travers les âges, depuis plusieurs siècles, qui ont développé un savoir-faire pour ce qui concerne le type de contrebande, qui maintenant est utilisé pour acheminer le pétrole issu par l'État islamique. Donc ce sont plutôt ce type de network privé qui font ce trafic. Ça n'a pas un volet idéologique, c'est purement commercial.
Et puis, au printemps dernier, les Nations Unies ont demandé aux États membres de lutter contre les sources de financement de l'organisation. Fehim Tashtekin.
Après, cela a quelque peu changé. Des précautions ont été prises. Par exemple, à Hadjipacha, les tuyaux courants en plein air ont été arrachés ou coupés. Il y a eu aussi des restrictions imposées aux chauffeurs de poids lourds. Sans que cela ait vraiment mis fin au trafic, mais depuis mars 2014, on peut raisonnablement penser que le renforcement du contrôle a sensiblement réduit cette source de revenus. Que l'État islamique commence à avoir des difficultés pour se financer n'est sans doute pas exagéré. Il est même certain que l'organisation connaît des problèmes économiques. Mais en tout cas, ces mesures n'ont pas asséché le passage clandestin du pétrole. Sur une aussi longue frontière, il n'est pas si facile de mettre un terme à ces pratiques.
Ce sont avant tout les bombardements des installations pétrolières et la chute du prix de l'or noir qui assèchent les finances de l'État islamique.
Alors c'est assez contradictoire, vous nous donniez, Jean-Charles Brizard, Vincent Schmoll, ce chiffre de 2000 milliards de dollars de richesse de l'organisation de l'État islamique. En même temps, c'est du pétrole qui passe par des tuyaux d'arrosage, ça a l'air quand même d'être beaucoup du bricolage.
La fortune, ce sont les réserves à la disposition de l'organisation. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation doit disposer de canaux de distribution, de pouvoir également transporter ces matières premières. Et c'est là où ça devient difficile et sans doute ces dernières semaines, ces derniers mois, de plus en plus difficile pour l'organisation. Néanmoins, on voit que les trafics continuent. On l'observe à travers nos sources et d'autres sources d'ailleurs sur le plan, s'agissant de la frontière syro-turque. Et il y a d'autres voies. La semaine dernière, l'Union européenne a désigné, par exemple, un individu soupçonné d'être un intermédiaire dans le commerce de pétrole entre précisément l'État islamique et le régime syrien. Ça veut dire que là, le pétrole est une matière fongible. Donc, si vous voulez, elle est intraçable par nature.
Ça veut dire que le régime syrien, Bachar el-Assad, finance l'organisation de l'État islamique ouvertement, quasiment.
Oui, en tout cas, achète du pétrole, bien sûr, pour ses besoins propres, si vous voulez. L'essentiel du pétrole qui est extrait par l'État islamique en particulier en Irak, l'est pour ses besoins propres. Il est raffiné, ce pétrole, à travers des raffineries artisanales, qui est très facile à mettre en œuvre. Et puis le reste de cette production, effectivement, est revendu à travers des intermédiaires, des réseaux qui sont préexistants, bien souvent, et qui peuvent aller n'importe où. Après, c'est fongible, encore une fois, ça peut même aller jusque votre propre véhicule, si vous voulez.
Alors, autre contradiction, comment expliquer que cette organisation potentiellement si riche organise des attentats comme celui qu'on vient de voir en Tunisie, au musée du Bardo, qui est fait avec deux hommes, une arme ou deux, et des moyens finalement extrêmement limités? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là entre la puissance de cette organisation et les moyens financiers qui semblent relativement limités, Pierre Conessa?
Non, je ne crois pas. Je crois que, si vous voulez, on est dans une guerre asymétrique, c'est-à-dire que de toute façon, celui qui est le plus faible va toujours essayer de frapper là où il pense que le plus fort est le moins bien préparé. Donc ça peut être en France, sur le Charlie, où il y avait effectivement une veille de sécurité, mais évidemment très légère, où ça peut être à Tunis. Et donc on est dans la logique même de la stratégie terroriste. Hein. Le terroriste va toujours frapper à l'endroit où il y a le moins de préparation. Moi, je voudrais simplement faire une remarque. Si les estimations que Charles Brizard évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire si on est face à un État qui a un capital de 2000 milliards de dollars, il peut pas garder ça en petite monnaie. Donc de toute façon, il utilise des circuits financiers. Et ces circuits financiers sont probablement ceux du Golfe. Parce que c'est quand même à Dubaï que c'est plus facile, même si ça aboutit ensuite à la City. Donc on est quand même sur un système où le Gafi a beaucoup de boulot. Ça, malheureusement, je sais que c'est pas le boulot qui manque. Mais on est sur des logiques où, si vous voulez, vous avez une très grosse masse financière à la tête, et puis vous avez de l'organisation de petits attentats comme ceux qu'on a vus. Malheureusement, le terme de petits attentats, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire oui. 2-3 personnes qui ne coûtent quasiment rien. Il suffit effectivement d'un petit financement local avec une petite escroquerie. Et là, c'est très difficile à maîtriser, très difficile à prévoir.
Guigouette, est-ce que Boko Haram est dans le même registre, c'est-à-dire une organisation puissante, riche, mais qui a des moyens de lutte limités?
Écoutez, on évalue aujourd'hui, du moins d'après les services de renseignement américains, entre 4 et 6 000 personnes qui composent les effectifs de Boko Haram. Alors, c'est des gens qui ont besoin de se nourrir, de se soigner, de l'armement, etc. Ça coûte très très cher, ils n'ont pas prise, eux, sur les matières premières, comme on peut le voir dans les autres parties. Par contre, il est très intéressant de voir que Ces gens sont arrivés à, donc vous parliez tout à l'heure des similitudes qui pourraient exister avec d'autres mouvements qui ont jadis existé. Effectivement, le racket continue d'exister, le trafic de drogue aussi continue d'alimenter leurs fonds. Mais ce qui est très intéressant, c'est leur entrée véritablement dans la contrefaçon, par exemple, ce qui pose également aujourd'hui des problèmes de santé publique. Ils fabriquent des médicaments, ils fabriquent des mèches pour les femmes, enfin, tout un ensemble de marchandises finalement dans une économie qui représente quand même 60% en termes d'informel. Donc aujourd'hui on est clairement dans une situation où on doit faire face à un écran de fumée, c'est-à-dire vous avez d'un côté les islamistes pur sucre qui eux bénéficient effectivement, comme disaient mes collègues tout à l'heure, de financement d'un certain nombre d'États, et même, et ça c'est aussi très intéressant, de l'effort de guerre de la diaspora qui est à l'étranger, qui ne peut pas partir lutter sur le terrain et qui envoie des fonds. C'est pour ça qu'avec nos amis américains, il est très intéressant depuis quelques mois de surveiller les flux financiers qui passent par les entreprises de transfert de fonds. Voyez-vous, on peut mobiliser jusqu'à 10 000 euros, voire davantage, pour contribuer ainsi à l'effort de guerre. Mais de l'autre côté, il y a ce que j'appelle les dilués, donc qui ne sont pas les islamistes pur sang, mais qui sont des espèces de franchises, donc qui ont bénéficié de l'État, de l'islamisme montant radical pour créer une nouvelle forme de criminalité qu'on n'avait jamais vue jusqu'ici. Donc le financement de cette entité-là est bien parti pour malheureusement durer faute de traçabilité suffisante.
Vincent Schmoll, Boko Haram a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique il y a quelques jours. Mmh. Est-ce qu'on peut s'attendre ou est-ce que vous surveillez d'éventuels flux financiers entre ces deux groupes, entre l'organisation de l'État islamique et Boko Haram ?
On peut s'imaginer que ces flux peuvent exister, mais pour le moment on n'a pas d'informations qui indiquent qu'il y a des liens financiers directs entre les deux. Mais je voulais dire une chose sur ces grandes masses d'argent pour l'ISIL, par exemple.
Pour l'organisation de l'État islamique.
Oui, c'est que en fait, on a tout cet argent, on a une organisation terroriste, mais en même temps, ils ont des responsabilités parce qu'ils contrôlent le territoire, aussi des responsabilités d'un État. C'est-à-dire, cet argent doit aussi payer certaines choses pour le maintien de l'ordre, pour le maintien de l'électricité, fourniture de l'eau et des choses comme ça. Alors, cela aussi doit être payé par tout cet flux d'argent.
Jean-Charles Brizard.
C'est très important. En effet, l'État islamique, et c'est même ce qu'il affiche dans sa propagande, il veut faire vivre cet État islamique. Et ça, ça coûte très très cher, on le sait. Et on sait, je vais vous le dire, d'ores et déjà, que l'argent généré par ces ressources naturelles, fussent-elles d'un montant que j'ai indiqué, de 2000 milliards, ne sont pas aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, suffisantes pour couvrir les besoins en infrastructures, en couverture sociale, hôpitaux, routes, etc. On connaît le budget des provinces que contrôle l'État islamique en Irak. C'est un budget de 2,6 milliards de dollars sur plusieurs années antérieures. Aujourd'hui, ce que génère au maximum et théoriquement l'État islamique, ce que peut générer l'État islamique de ses ressources, c'est 2,6 milliards de dollars. C'est-à-dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que à terme, cette organisation ne pourra pas maintenir le niveau de service qui était celui de ces provinces avant qu'elles n'en prennent le contrôle.
Pierre Conessa ?
Moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que la stratégie de tous les groupes terroristes qui se sont territorialisés comme ça, c'est quand même de diversifier les ressources. C'est-à-dire qu'il y a une autre source à laquelle on pense pas assez, par exemple, c'est le kidnapping, hein, quand même, l'enlèvement, parce que j'avais calculé une fois que les demandes de rançon formulées par les islamistes maliens représentaient, quand on totalisait les demandes connues de rançon, on arrivait à peu près à la moitié du budget de défense malien, si vous voulez, en équivalent. Donc, on est face à des gens qui diversifient, parce qu'effectivement, il peut y avoir la drogue, il peut y avoir la coopération avec le crime organisé, etc. Ou il peut y avoir ce qu'on avait connu au Cambodge aussi, le détournement de l'aide internationale. Hein. Parce que quand on a des masses de réfugiés et qu'on les organise, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui vont arriver. Et donc, moi, je veux simplement attirer l'attention sur le fait que le cas du Nigeria, c'est quand même un des pays les plus riches d'Afrique, où depuis des années, le plus riche, et dans lequel il y a eu quand même deux présidents de la République qui ont été arrêtés pour corruption, si je ne m'abuse, et il n'y a jamais rien eu de sérieux, ce qui fait qu'au bout du compte, quand on se trouve avec une région totalement vérolée, comme la région dans laquelle Boko Haram s'est insurgé, eh ben, finalement, on a cette situation. Donc, la corruption est un problème stratégique aujourd'hui, c'est pas un problème économique.
Eh bien, nous poursuivrons cette conversation dans quelques minutes. C'est la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré au financement du terrorisme. Nous nous retrouvons donc dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI. Le
magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, consacrée au financement du terrorisme. Quatre invités autour de ce micro, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur aux éditions Robert Laffont d'un livre intitulé La fabrique de l'ennemi, Guy Gouette, fondateur du cabinet d'intelligence économique Nowdiz, Jean-Charles Brizard du centre d'analyse du terrorisme, auteur d'un rapport sur les finances de l'organisation de l'État islamique, et Vincent Schmoll, auteur également d'un autre rapport au nom du GAFI, le groupe d'action financière, donc d'un autre rapport sur ce groupe de l'État islamique. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que le pétrole fournissait des ressources très importantes à l'État islamique, mais il n'y a pas que le pétrole comme ressource, il y a toutes les autres matières premières que vous évoquiez, Jean-Charles Brizard, tout à l'heure. À part le pétrole, il y a des phosphates, des céréales.
Bien sûr, non. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette organisation, et encore une fois là, contrairement à toutes les autres avant elle, elle a diversifié son financement. Et pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle ne voulait pas dépendre financièrement, notamment de ses donateurs étrangers. Contrairement à Al-Qaïda. Al-Qaïda bénéficiait, on le sait, de donations institutionnelles ou privées, provenant de certains pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite. Cette organisation, celle d'Abu Moussab al-Zarqawi initialement, parce que c'était l'ancêtre hein, de l'actuel État islamique, elle a voulu progressivement, au fil des années, se délier de ses donateurs étrangers, et les donations, on le constate aujourd'hui, représentent une part infime, sans doute moins de 5% de l'ensemble du budget de cette organisation. Et effectivement, à la faveur d'une diversification de son financement, alors on parle du pétrole, mais il n'y a pas que le pétrole, hein. Il y a les céréales, en effet, elle a mis la main sur 50%, près de 50% de la production de blé et d'orge de l'Irak. Il faut parler également du gaz naturel, des mines de phosphate, et puis des ressources effectivement tirées d'activités criminelles. C'est les rançons de prise d'otages, c'est également, et c'est surtout d'ailleurs aujourd'hui, l'extorsion. C'est-à-dire les impôts qui sont imposés, on a calculé qu'il y a plus d'une quinzaine d'impôts qui visent toutes les activités de la société imposées par cette organisation.
Vincent Schmoll, cette ressource fiscale est importante pour l'organisation de l'État islamique ?
Oui, on dit fiscal, mais c'est vraiment pas vraiment fiscal, c'est vraiment une extorsion. Je crois que le chiffre qu'on avait fait pour les salaires des salariés publics en Irak, c'est jusqu'à 50% de leurs salaires sont perçus en tant que taxes ou impôts, simplement par le fait que ces personnes se trouvent dans le territoire contrôlé par ISIL. Et il y a toutes sortes d'autres taxes, disons, soi-disant taxes, oui, sur les marchandises, sur les espèces qui font le transit dans le pays. Pour nous, nous considérons que cet aspect-là, le flux de fonds qui suit de l'extorsion et de vol, est le plus important pour l'ISIL.
C'est-à-dire que c'est plus important que le pétrole.
Bon, ça fait partie aussi, parce qu'en fait, c'est une sorte de vol aussi.
Est-ce que Boko Haram, au Cameroun, au Nigeria et dans les régions qu'il contrôle, pratique aussi cette espèce d'imposition forcée sur les populations?
Mais oui, ça a commencé en fait dans le nord du pays, dans la région de Bornou, qui s'est littéralement asséchée économiquement au cours des dernières années. Il faut savoir que jusqu'en 1970, cet État avait encore, si vous voulez, une économie florissante avec des gens qui vendaient de l'huile, etc. Et puis la concurrence internationale est arrivée. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui se sont déployés sur un terrain où, tenez-vous bien, on a quand même 83% d'analphabètes hein, dans la population. On a un taux de pauvreté qui atteint les 70%, c'est-à-dire 10% de plus que la moyenne nationale au Nigeria. Et donc, on rackette systématiquement toutes les entités qui sont présentes sur le territoire. Il faut payer le droit d'y exister sans être attaqué. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ils ont ils sont parvenus à mouiller jusque dans le personnel politique et même au sein de l'armée grâce au crime organisé, je vous dis. Et c'est ce qui rend encore beaucoup plus complexe aujourd'hui la bataille contre cette entité, parce qu'elle est arrivée véritablement à infiltrer, à mouiller un ensemble de, enfin, de personnel, une partie du personnel politique et du personnel militaire.
En les faisant participer à ces trafics.
En les faisant participer clairement à ces trafics qui sont, je vous dis encore, qui sont partis pour durer parce que, on a quand même 60% de la population nigériane, dont sur les 173 millions que compte ce pays, 60%, disais-je, qui vivent avec moins d'un dollar par jour.
Alors, nous revenons à l'organisation de l'État islamique, à part les matières premières dont nous parlions tout à l'heure. Ce groupe terroriste se finance aussi grâce au pillage des antiquités très abondantes, très nombreuses en Irak et en Syrie, c'est l'ancienne Mésopotamie. Comment témoigne Samir Abdoulak, secrétaire général de la section française du Conseil international des monuments et des sites, Samir Abdoulak, que j'ai rencontré à Paris il y a quelques jours.
Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des fouilles clandestines qui s'effectuent, il y a des photos aériennes qui nous en donnent des visions affolantes. Sur certaines photos aériennes, entre deux images distantes de 2 ans, on peut avoir un paysage normal et 2 ans après, un paysage lunaire avec des trous chaque mètre carré. Et ça, c'est l'évidence de recherche, de fouilles clandestines.
Est-ce qu'il y a des fleuves de pièces antiques syriennes ou irakiennes qui irriguent un marché noir mondial ?
Il y a des découvertes fortuites de pièces dans des pays voisins. Et il y a une présence anormale de pièces de ces pays sur le marché de l'art. Entre 2011 et 2013, des œuvres archéologiques de provenance d'Irak avaient augmenté de 60% aux États-Unis et de 140% en provenance de Syrie. Le flot a dû commencer avec le début de la guerre civile en Syrie.
Donc il y a 4 ans.
Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que pour ces groupes qui guerroient en Irak et en Syrie, c'est une ressource importante ?
Ce que l'on sait par exemple, c'est que l'administration irakienne dit qu'il y a eu quelque chose comme 36 millions de dollars gagnés par Daesh en un an par le trafic des antiquités irakiennes. Nous ne savons pas comment le chiffre a été établi, quels sont les renseignements dont dispose le gouvernement irakien. En tout cas, je vous cite un chiffre.
Alors Jean-Charles Brizard, 36 millions de dollars, c'est un chiffre qui vous semble vraisemblable, important ?
Oui, tout à fait. Ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que d'abord, l'État islamique contrôle à peu près 90% des sites archéologiques en Syrie. On avait 4500 de mémoire et 2500 sites en Irak, à peu près 20% des sites. Donc ce qu'on voit, et c'est le paradoxe encore une fois d'une organisation telle que l'État islamique, c'est qu'on voit sa propagande, la destruction face caméra d'un certain nombre d'œuvres d'art. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'essentiel, c'est 90% de ce que fait l'État islamique avec ses œuvres, et les œuvres en particulier les plus chères, les plus demandées, c'est qu'effectivement elle en fait commerce à travers toujours un réseau d'intermédiaires qui pouvait exister et qui existait depuis d'ailleurs de nombreuses années. Mais donc voilà, parce que c'est également un produit, entre guillemets, qui est surtaxé. C'est l'une des taxes les plus importantes d'ailleurs sur le plan religieux, on les taxe à 20%, les trésors archéologiques. Donc voilà encore un paradoxe de cette organisation qui fait de la propagande en détruisant ses œuvres d'art et puis qui en même temps en tire profit bien sûr très largement.
Vincent Schmoll, ce trafic d'œuvres d'art, d'antiquités, c'est quelque chose que vous avez dans vos radars, au groupe d'action financière, que vous surveillez, oui. Dont vous avez la trace ?
Oui, de plus en plus, c'est quelque chose qui, au niveau international, devient plus important. Déjà, cela a été reconnu dans une résolution de sécurité.
Du Conseil de sécurité.
Qui vient d'être publiée au mois de février, qui note déjà ce problème et qui rajoute certaines demandes sur le gel des fonds qui sont liés à ce trafic. C'était pas le cas avant, mais maintenant c'est reconnu et c'est quelque chose que nous avons déjà remarqué dans notre rapport.
Pierre Connaissant, en Afrique, il y a aussi un trafic de manuscrits, par exemple. On a beaucoup parlé des manuscrits de Tombouctou qui ont été en partie pillés, en partie, mais très marginalement détruits. Est-ce que ça fournit aussi des finances à l'organisation ACMI ?
C'est très difficile à dire.
Parce que le marché de l'art est quand même un marché dans lequel les instances de contrôle et les systèmes sont assez organisés et en plus le nombre d'acheteurs sont pas très nombreux. Qui va acheter un manuscrit d'une bibliothèque de Tombouctou si ce n'est certains spécialistes qui sont assez identifiés ou certains antiquaires, etc. Donc ça ne présente pas la fongibilité du marché du pétrole ou l'argent qu'on va collecter avec le kidnapping. Donc c'est un côté choquant pour nous, mais enfin nous on a Napoléon dans notre passé quand même qui a été le plus grand pilleur d'œuvres d'art de l'histoire. Mais il détruisait pas, c'est ça la différence, il détruisait pas. Moi ce que je voudrais remonter c'est sur la partie destruction. C'est une destruction qui trouve son origine au moment où les salafistes, enfin plutôt les wahhabites, prennent la Mecque. À ce moment-là ils détruisent le cimetière dans lequel sont enterrés les compagnons du prophète dont ils se prétendent les imitateurs aujourd'hui. Le bâti, c'est-à-dire que on a une logistique de la destruction parce que c'est une espèce de calvinisme de l'islam, c'est-à-dire il ne peut y avoir aucun site qui prétende être autre chose que le culte de Dieu. Et donc la destruction va avec le trafic, puisque le trafic consiste à se débarrasser, mais contre argent, tandis que la destruction est un acte religieux. Alors, juste sur le, je voudrais revenir sur une idée qu'évoquait monsieur sur le fait que aujourd'hui,
vous parlez de Guigouette là.
Oui, pardon. Que à propos du fait que Boko Haram commence à fabriquer lui-même ses produits, etc., etc. Je voudrais attirer l'attention sur nos candidats djihadistes. Il y a des sites indonésiens qui font des tenues de djihadistes pour l'Irak. Qui fassent attention, hein, ce sont probablement des faux. C'est-à-dire même les djihadistes aujourd'hui sont copiés.
Copiés par les Indonésiens.
Par des sites indonésiens, oui, qui font, si vous voulez, des casquettes d'État islamique, des sweats à capuche, etc. Donc, qu'ils fassent attention, ce sont des faux.
Produits dérivés du djihad.
En fait, ces produits-là ne sont pas fabriqués que pour les combattants. Non, c'est vraiment fabriqué pour arroser le marché. Vous avez du paracétamol qui coûte vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les pharmacies normales.
Et mais qui est un faux, qui n'est pas du paracétamol.
Mais qui sont des faux, clairement des faux, des mèches. Vous avez plusieurs outils, en fait, des produits de première consommation qui sont ici et enfin, complètement contrefaits.
Est-ce qu'on apprend ces derniers jours du ministre notamment du budget français, et je l'avais su de des douanes en particulier, c'est que des djihadistes français, alors c'est vrai que le voyage pour le djihad n'est pas un voyage onéreux, là on parlait tout à l'heure de l'État islamique, comment les jeunes s'y rendent? Il y a quand même un minimum. Et on le voit à travers notamment le financement des attentats de Paris, les prêts à la consommation, mm-hmm. à travers de fausses déclarations. Le ministre du budget a indiqué qu'il recourait également à la contrefaçon, à la contrebande de cigarettes, de drogue. Voilà, donc ça, ce sont des trafics qui, en réalité, alimentent également ces djihadistes et qui procure à ces individus, en tout cas, des moyens de combattre, y compris de combattre ici en France.
Donc, alors, important. Parmi les coûts qui sont ceux de l'organisation et de l'État islamique, il y a aussi les salaires qui sont versés aux combattants, qui sont très importants, Jean-Charles Brizard.
Oui, alors les salaires varient hein, en fonction du combattant. Ça fluctue, je crois, entre $300 et $800 par mois. Donc, il y a effectivement plus le logement. Donc ça génère tout ça, génère des coûts en réalité pour l'organisation et des coûts très importants. Ce que l'on sait, on connaît le nombre de djihadistes présents.
Claire connaît ça.
Il y a une ressource aussi sur laquelle il faut attirer l'attention. On sait qu'il y a des femmes yazidis qui ont été enlevées et revendues ensuite, hein, c'est-à-dire à $150 pièce. Donc, ça fait partie aussi de ces ressources audio. Si vous voulez, sur lesquelles il faut aller creuser dans le détail hein, pour trouver ce genre de posture infamante.
C'est Écho ici, Écho d'ailleurs sur RFI, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous parlons du financement du terrorisme avec quatre invités. Jean-Charles Brizard pour le Centre d'analyse du terrorisme, Vincent Schmoll du groupe d'action financière, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense, et Guigouette du cabinet Knoudiz. Les mouvements terroristes ne datent pas d'hier, sans remonter trop loin, restons-en à la fin du XXe siècle. On peut recenser en vrac le sentier lumineux péruvien d'inspiration maoïste, certains mouvements palestiniens. Il y a eu aussi pendant 26 ans et jusqu'à sa défaite en 2009 un mouvement de guérilla considéré comme terroriste, les Tigres de l'Elam Tamoul au Sri Lanka. Les Tigres de l'Elam Tamoul voulaient créer un état indépendant dans le nord de l'île. C'était un mouvement très riche qui avait même une marine de guerre et une aviation. Une grande partie de son argent venait de la diaspora sri lankaise dans le monde, 1 million de personnes au total. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de Sébastien Farcy à Colombo.
Pendant la période de cessez-le-feu entre 2002 et 2006, la guérilla a installé un bureau à Jaffna. Et moi, quand j'ai ouvert un service de téléphone payant, j'ai dû payer une taxe au LTTE. Tous les commerces devaient le faire. Ils nous disaient, maintenant, nous gouvernons, c'est donc nous que vous payez.
Paramesh Navaratnam sort un petit papier rectangulaire avec au centre une tête de tigre, le logo de la rébellion de l'Ilan Tamoul. Voici donc le reçu très officiel que remettait cette administration parallèle. Mais leur principale source de revenus venait des contributions et extorsions de la diaspora tamoule, comme le raconte Paramesh.
Les Tamouls Sri Lankais qui vivaient au Danemark m'ont dit qu'ils devaient payer 200 couronnes par mois au LTTE. Mon beau-frère installé au Canada a dû leur verser 200 dollars mensuels jusqu'à la fin de la guerre. Si vous refusiez, ils vous attaquaient ou vous battaient. Cet argent était ensuite investi dans des commerces comme des supermarchés à Londres ou au Canada.
La création de ces petits commerces en Occident, comme des épiceries ou des services de transfert d'argent, était efficace pour blanchir cet argent et acquérir des devises étrangères très importantes pour acheter des armes. Celles-ci sont venues de différents pays, suivant les périodes. D'Inde dans les années 80, puis du Pakistan et d'Afghanistan à la faveur des conflits qui frappaient la région, et enfin d'Ukraine et des anciens pays soviétiques. Les transferts d'argent sont devenus plus difficiles après les attentats du 11 septembre 2001, car la rébellion des Tigres a alors été qualifié d'organisation terroriste par la plupart des pays occidentaux. Aujourd'hui, dans le nord du Sri Lanka, il ne reste ni armes, ni important mouvement désireux de les reprendre. Cependant, le réseau financier à l'étranger reste intact, comme l'explique Muthukrishnan Savanantan, directeur du Centre sur le développement de Point Pedro.
Maintenant, leur stratégie a changé. Ils financent des partis politiques au Canada, en Angleterre et aux États-Unis afin de dénigrer le gouvernement sri-lankais, qu'ils accusent d'avoir commis des crimes de guerre et un génocide. En 2008, quand Hillary Clinton menait campagne pour la primaire démocrate, elle a ainsi reçu un don d'une organisation appelée les Tamouls contre le génocide, qui était financée par le LTTE. Le gouvernement sri-lankais l'en a averti et elle a finalement rendu l'argent.
C'était un reportage de Sébastien Farsi à Colombo, au Sri Lanka. On peut faire un parallèle entre cette forme de financement des Tigres de l'Élam Tamoul et ce qui se passe aujourd'hui avec l'organisation de l'État islamique, ACMI ou Boko Haram. Est-ce que les États du Nord, les États-Unis, les organisations internationales, tentent d'empêcher ces flux financiers qui drainent des sommes importantes, semble-t-il, vers ces organisations terroristes? Pierre connaît ça.
Je crois qu'il y a plusieurs modèles, si vous voulez. Il faut quand même penser que, par exemple, que l'IRA irlandaise a été largement financée par la diaspora irlandaise aux États-Unis. Donc c'est un épisode sur lequel on revient un peu, parce que c'était deux démocraties dans lesquelles il y avait une communauté irlandaise américaine qui, il faut dire, avait migré au moment de la maladie de la pomme de terre, c'est-à-dire au moment où vraiment il y avait eu cette famine scandaleuse organisée par la Grande-Bretagne, enfin laissée faire par la Grande-Bretagne, et donc il y avait une vieille vengeance à assumer. Bon, il y a aussi le cas des Kurdes quand même qu'il faudrait pas oublier, c'est-à-dire que si le PKK survit, c'est en grande partie parce qu'il y a des diasporas kurdes à droite et à gauche. Mais le travail, comment dire, d'examen de ce que font les diasporas à l'étranger mériterait en soi une émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, que ce soit les communautés africaines, soit la communauté juive, soit la communauté arménienne. Enfin, il y a de quoi faire.
Mais Michel Sapin, le ministre français des Finances, a annoncé il y a quelques jours des mesures de lutte contre le financement du terrorisme sont en particulier visées tous les paiements, retraits et dépôts bancaires en espèces. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être efficace, Vincent Schmoll?
Oui, ça fait partie de ça, parce que en fait, on parlait ici des sources, mais il faut regarder un peu les mécanismes. Alors, ces transferts de fonds se passent, c'est quasiment un système bancaire souterrain qui existe, et c'est le défi pour tous les pays d'essayer de trouver un moyen de stopper les flux de fonds qui sont peut-être les dons vers les groupes terroristes, mais ne pas arrêter les flux qui sont des flux des fonds, soit pour soutenir des familles à l'étranger, ou bien pour simplement pour réaliser des transactions économiques. C'est vraiment un système souvent qui, pour les personnes qui sont pas exclues du système conventionnel ou normal du système bancaire. Alors, c'est pas toujours le cas, et certains pays ont réprimé très fort ces flux ou ces systèmes, et ils ont découvert qu'en fait on peut pas à 100% les éradiquer, parce que si on fait comme ça, on risque d'avoir l'exclusion totale d'une certaine partie de la population.
Alors, le système financier face au terrorisme, il en a été question lors du forum de Davos le 26 janvier dernier. François Hollande a par exemple appelé les grandes entreprises à lutter contre les réseaux de financement du terrorisme. On l'écoute.
Force vive du monde, grands acteurs économiques, chefs des plus grandes entreprises de la planète, je vous appelle donc à l'engagement. Je m'adresse en particulier aux grandes entreprises du numérique pour qu'elles puissent prendre leur part, identifier les contenus illégaux, les rendre inaccessibles et faire en sorte d'établir une forme de règles parce que vous êtes aussi partie prenante de la régulation. J'appelle le système financier à couper les sources d'alimentation du terrorisme, à en terminer avec les paradis fiscaux, à lutter contre le blanchiment de l'argent. C'est notre intérêt commun. Ne laissez pas agir aujourd'hui une bête qui vous frappera aussi le moment venu.
Jean-Charles Brizard, les entreprises luttent contre le financement du terrorisme?
Oui, mais la véritable question aujourd'hui, est par rapport notamment, je reviens à l'État islamique, parce que c'est quand même l'organisation aujourd'hui qui est celle qui mobilise le plus dans le monde entier et qui responsable également d'un certain nombre d'attentats, de plus en plus, je pense, dans le futur. Les entreprises, elles n'ont pas de prise sur ce qui se passe là-bas. Au contraire, elles se retirent. Les entreprises françaises étaient présentes en Irak, en Syrie. Celles qui y étaient, en tout cas, se retirent. La véritable question, c'est encore une fois la question du contrôle territorial. Les Américains ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils feraient tout pour préserver le potentiel économique irakien. C'est-à-dire qu'on ne vise pas aujourd'hui les puits de pétrole dans les frappes aériennes. On ne veut pas appauvrir le peuple irakien. Et c'est bien là qu'est le souci, c'est qu'il y a un contrôle territorial. Les règles d'engagement, je l'ai dit, elles visent notamment les moyens de stockage, de transport et de raffinage, mais elles visent pas les puits eux-mêmes. Et c'est tant mieux d'ailleurs, on préserve l'avenir, en tout cas l'avenir de cette population. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de réponse, on est extrêmement limité. L'ONU, dont on a parlé tout à l'heure, le Conseil de sécurité, réagit comment? Il réagit comme il a toujours réagi par rapport à Al-Qaïda, c'est-à-dire par rapport à une organisation pour laquelle il y avait des flux financiers. Il n'y a pas de flux financier aujourd'hui observable, en tout cas identifié dans le cadre d'État islamique. C'est une organisation qui s'autofinance. Donc tout ce qu'on met en œuvre comme mesure, notamment le gel des avoirs, à mon sens, il sera très largement inopérant. Ce que je crois, il faut essayer de se rapprocher de d'autres solutions qui ont été trouvées dans le passé. Ça a été le cas, par exemple, avec l'UNITA en Angola, parce que l'UNITA contrôlait des mines, contrôlait des puits de pétrole. En 93 ou 94, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé pour la première fois d'un embargo contre une entité non étatique, en l'occurrence un groupe rebelle. Je crois qu'il faut s'approcher de ça. Il faut tenter d'imposer une sorte d'embargo sur l'ensemble des marchandises, l'ensemble des biens qui seraient produits ou transiteraient vers le territoire contrôlé par l'État islamique, si vous voulez. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de flux, encore une fois, financier.
Vincent Schmal, vous êtes un peu mis en cause, là.
Non. Ce n'était pas mon intention.
Je comprends, parce que pour nous, c'est aussi le même défi, parce qu'on a ces systèmes ce qu'on appelle des sanctions financières ciblées qui sont là pour essayer de bloquer les flux. Mais si on peut pas détecter des flux ou il n'y a pas de flux, parce que c'est quelque chose qui est dans le pays même ou le territoire même, on peut rien faire sur ces flux si tout l'argent reste dans le pays. C'est seulement si l'argent sort, et c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de mieux comprendre, quels sont les flux d'argent quand il y a les ventes de pétrole à l'étranger, le contrebande de pétrole. Est-ce qu'il y a des moyens aussi de détecter ces aspects-là, de les bloquer?
Vous êtes impuissant?
Non, nous ne sommes pas impuissants. Non. Comme je vous ai dit, le système que nous avons aussi pour détecter ces flux peut nous aider aussi à mieux comprendre et voir ces flux. C'est ce qui a été très clair quand on a fait ces recherches, qu'il y a encore des choses qu'on sait pas tout à fait, et il faut qu'on continue à rechercher pour mieux comprendre quels sont ces flux, quelles sont les dépenses de ces organismes et quelles sont les réponses qu'on peut faire.
L'État islamique contrôle, c'est d'ailleurs le GAFI, c'est indiqué par le GAFI également, à peu près plus d'une centaine d'établissements bancaires ou de succursales entre l'Irak et la Syrie. Il y a effectivement des instructions qui ont été données à la fois par les régulateurs, nationaux et par le siège de ces banques pour cesser les transactions avec ces établissements bancaires sous le contrôle de l'État islamique. Qu'en est-il réellement ? Certaines de ces banques, notamment, acceptent le paiement et notamment les transferts d'argent en espèces. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une idée précise de ces flux ? Est-ce que ces flux sont arrêtés véritablement ou est-ce qu'ils continuent ?
Visiblement, le CAFIL ne sait pas.
Guigouette, vous pensez qu'effectivement, ce serait extrêmement compliqué de fermer totalement le robinet. Pour parler de l'Afrique, il faut savoir que les flux qui viennent de la diaspora sont bien supérieurs aujourd'hui à l'aide publique au développement. Je pense que ce que le terrorisme nous apporte de très intéressant aussi aujourd'hui au niveau mondial, c'est que de New York à Madrid, en passant par Paris, Tunis, Lagos, ça nous raconte une histoire, c'est de dire, vous êtes une communauté internationale, si vous n'agissez pas ensemble, eh bien on vous frappera partout. Et ça, c'est un message qu'il nous faut entendre pour lutter ensemble contre ce mal qui nous atteint tous.
Pierre Connaissant, vous êtes d'accord avec cette parole de
sage?
J'ai tendance
à penser qu'on est dans un monde où frapper au niveau de l'argent devient extrêmement difficile, parce que ne serait-ce que l'Union européenne doit contenir une cinquantaine de paradis fiscaux en son sein, 50 paradis fiscaux. Ça veut dire que quand j'entends un président de la République, comme son prédécesseur, dire les paradis fiscaux c'est fini, que je découvre que dans le dernier scandale HSBC, il y avait des comptes des proches d'Al-Qaïda qui étaient gérés par HSBC, j'ai des doutes sur la réalité de la bienveillance, si vous voulez, des institutions financières, enfin des banques privées, si vous voulez, à gérer, notamment quand on a face à un pactole de 2000 milliards de dollars. Je ne connais pas une salle de marché dans laquelle j'aurais vu un trader s'arrêter parce qu'on pensait que c'était de l'argent sale. Pensez simplement qu'en plein milieu de l'Europe, vous avez une entité qui s'appelle le Liechtenstein, dans lequel même le fisc allemand ne savait pas qu'il y avait de la fraude. Donc, comment va-t-on faire croire qu'on va contrôler des banques en Syrie et en Irak ? Il faudrait déjà nettoyer chez soi.
Merci Pierre Connaissant, merci Vincent Schmoll, Jean-Charles Brizard et Guy Gouette d'avoir participé à cette émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, consacrée au financement du terrorisme qui est maintenant terminée. Guillaume Munier était au pupitre technique de l'autre côté de la vitre. Et la semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouvel Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.